Bonjour Yann Kounen.
Bonjour.
Alors je vous interroge, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était il y a une dizaine d'années, puisque un livre était sorti chez Mama Édition qui s'appelait Plantes et chamanisme, et c'était en fait une discussion à trois avec Vincent Ravalek, Jérémy Narbi et vous-même, et vous parliez des plantes de l'Amazonie, notamment l'ayahuasca, mais aussi l'iboga, qui était une plante qu'on trouve en Afrique. Et là, 10 ans plus tard, ce livre sort réactualisé, puisque vous vous êtes à nouveau rencontrés à trois l'an dernier, je pense, à Paris. Et donc vous évoquiez un peu ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est bien ça?
Absolument. On s'est toujours dit, je crois, dès le départ, dès qu'on a fait ces entretiens et écrit ce livre il y a 10 ans, que ce serait intéressant de voir un petit peu 10 ans plus tard où on en est, ce qui s'est passé. Et donc voilà, le rendez-vous avait été déjà pris et on l'a fait.
Il y a 10 ans, vous me disiez que vous n'étiez pas sûr à l'époque de retourner donc en Amazonie pour refaire des sessions d'ayahuasca, mais je pense que c'est pas comme ça que ça s'est passé pour vous. Vous êtes retourné pas mal de fois là-bas, me semble-t-il, et du coup j'aurais souhaité vous demander à quelle fréquence et actuellement quel statut vous aviez auprès du peuple Shipibo, si c'est toujours eux que vous allez voir de tout.
Oui, alors ça m'étonne que je vous ai dit ça,
Eh oui.
mais c'est assez logique, parce que
Ok.
c'est vrai que ce sont des expériences quand même qui sont fortes, et puis c'était et puis je crois qu'au fond, ce qui est important, c'est pas de se dire qu'on va faire des choses tant que ça nous semble juste, tant qu'on voit des choses positives qui émergent de la médecine traditionnelle. Parfois, il y a des zones qui vous secouent, vous pouvez prendre de la distance. Mais en fait, au fond, ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est que je suis retourné de manière régulière, au moins une fois par an, voire plus, pour faire des diètes, passer du temps avec, même si j'ai pu prendre avec d'autres ethnies, parfois leurs plantes, principalement la médecine vers laquelle je vais, c'est celle des Shipibo-Conibo, donc avec effectivement l'ayahuasca, mais avec aussi toute une autre série de plantes de diète. L'ayahuasca, c'est vrai que c'est la plante la plus connue puisqu'elle est psychoactive et qu'elle provoque des visions, et donc c'est une expérience très forte. Mais autour de ça, la médecine s'articule beaucoup sur des diètes de plantes qui ne sont pas, elles, psychoactives, mais qui sont prises sous forme d'isolation dans la forêt. Et par contre, vous rentrez en communication avec le monde de ces plantes via des rêves, puis votre état sensible, parce que vous êtes seul, isolé, dans la nature. Et ça vraiment fait partie aussi, c'est une part importante. Moi, j'en parlais pas dans le livre, j'étais pas encore rentré dans les diètes traditionnelles
Oui, par contre, vous avez sorti, je
de
pense,
ce
un
type.
livre explicatif, justement, où vous revenez longuement sur qu'est-ce que la diète, qu'est-ce que l'importance pour vous des diètes, dans un livre que vous avez sorti aussi il y a quelques années.
J'ai fait un livre qui s'appelle Carnet de voyage
Voilà.
intérieur, que j'ai plus fait quand je me trouve en Amazonie. Je croisais souvent donc des Occidentaux qui venaient, et parfois ils étaient venus parce qu'ils avaient vu mon film ou lu un bouquin. Et j'ai pratiqué pendant, on va dire, pas mal de temps, des conseils, qui est simplement des gens qui vont faire une cérémonie et on leur donne des conseils. Et en fonction des conseils, on a le résultat le lendemain. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient vraiment bien pour conseiller les gens, et puis d'autres pas du tout. Et donc, plutôt que de répéter toujours les mêmes choses, je vais peut-être faire un livre, comme ça permettra de le partager
Ouais.
avec d'autres personnes qui veulent tenter l'aventure. Et j'ai fait un livre que j'ai divisé en deux parties. Un, qui sont vraiment un petit manuel de conseils pratiques, et la deuxième, qui est une histoire plus intime de vraiment mes voyages et mon aventure, pour comprendre depuis l'intérieur aussi les mouvements sur plusieurs années que peuvent provoquer les plantes et le type de situation émotionnelle ou visionnaire, et les mouvements que vous avez dans vos paradigmes de croyances au cours de ces expériences. Donc, de voir moi dans la machine à laver, on va dire, et puis quelques conseils. Voilà, le tout avec humour, hein, ça reste.
Justement, est-ce qu'il y avait une motivation derrière ces allers-retours? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous souhaitiez, par exemple, vous former au rôle d'ayahuasquero ou même une formation de guérisseur, par exemple?
Moi, je suis plutôt un ayahuasquero. Ça veut dire que c'est une pratique qui est intégrée dans ma vie maintenant, au bout
Oui.
de presque 20 ans maintenant, hein. Ça veut dire que on a des connaissances de la médecine, on a les diètes, et puis on avance, on pratique, et donc à un moment donné, c'est principalement fait, moi, pour deux raisons. D'abord, parce que j'y trouve un équilibre, une force, voilà, comme chacun peut avoir avec une pratique, on va dire, à d'autres niveaux, avec le yoga ou la méditation, mais aussi physiologique, avec les plantes. Et donc, c'est quelque chose qui rentre dans ma vie pour être mieux dans la navigation dans ce monde et dans la réalité. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est aussi une curiosité profonde que j'ai, parce que pour moi, cette rencontre a retourné mes systèmes de
Oui.
réalité, on va dire, hein, et mes croyances. Donc du coup, je suis toujours curieux d'avancer, de comprendre mieux ou plus profondément les fonctionnements de la médecine traditionnelle, et de pouvoir communiquer autour. Là, je fais encore un film sur le sujet, parce que je pense que c'est important, et c'est aussi l'objet de ce livre, c'est important de j'étais très éloigné de la vision d'une médecine et même d'une relation à la nature de notre culture. C'est quelque chose qui a existé. Et donc, c'est intéressant, de manière complémentaire, de savoir que ça existe et de regarder, donc, pas les indigènes peut-être de haut, mais au moins à même hauteur et leur connaissance. Ceci fait que, du coup, moi, j'ai une relation avec les plantes qui me permet aussi de travailler avec les champs.
Les icaros, oui.
Voilà, avec les icaros, puisque, du coup, à travers les diètes et la pratique, c'est des choses qui deviennent des outils pour vous, pour naviguer mieux, principalement pour moi, ou alors dans des cérémonies collectives avec les Indiens, ça fait partie de l'énergie de groupe, on va dire. Donc moi, j'ai une évolution là-dedans, puisque je suis rentré dans la pratique des icaros et dans une connaissance plus profonde de la médecine. Maintenant, voilà, ça vous donne une place d'infirmier dans un monde de chirurgien. Hein. Voilà, c'est ce que pour moi, un guérisseur traditionnel de haut niveau est un niveau de pratique et de diète et de connaissances très élevé. Oui. C'est pas quelque chose vers lequel je me dirige, mais j'aime pouvoir le partager plus profondément et voir et comprendre mieux leur travail et en profiter mieux. Donc voilà pourquoi c'est resté dans ma vie que j'avance et voilà quelle est ma place maintenant dans cette médecine.
Est-ce qu'on peut parler d'un... Enfin, la vision sous ayahuasca, c'est un peu la vision d'un monde invisible, en quelque sorte, puisque, par du principe, c'est ça, que les animaux, les plantes possèdent une sorte de conscience, c'est ça. Grâce à l'ayahuasca, on peut la visualiser, c'est, en quelque sorte, c'est un peu ça.
En fait,
ma question, plus simplement, excusez-moi, c'était cette découverte pour vous de ce monde. Vous parliez tout à l'heure de croyances qui ont été bouleversées. J'aurais souhaité savoir succinctement en quoi vous avez influencé spirituellement et professionnellement.
Alors, c'est vrai qu'il y a une modification de paradigme parce que vous trouvez face à un phénomène qui n'est pas expliqué dans votre culture. Comment, en prenant un psychoactif, vous entrez dans un monde dans lequel, et je peux le dire maintenant, au bout de 18 ans, il y a une parfaite cohérence de chaque vision. Et que c'est un puzzle qui s'assemble, mais un puzzle très très large, hein, pour voir l'image finale. Mais en tout cas, dans l'assemblement du puzzle, il y a une cohérence par vous. Donc vous êtes un peu, je dis à chaque fois, je suis un peu moi comme Richard Dreyfus dans Rencontre Troisième Type. Donc dans le premier temps, on est bouleversé parce que, alors c'est pas des extraterrestres, mais on est bouleversé par découvrir que les arbres autour de vous, les plantes autour de vous pouvaient communiquer, quasiment dialoguer, qu'elles peuvent se manifester.
Tout est vivant.
Et que, voilà, dans les visions, mais de manière un peu de la réalité virtuelle, originelle, on va dire. Hein. Après, en vous posant des questions, vous vous rendez compte que c'est aussi là où il y a un changement, si vous voulez, c'est de me dire que... Et là, je reprends un petit peu ce qu'avait développé Romuald Le Terrier, qui avait exploré aussi des possibles explications, en tout cas, ce qu'on cherche naturellement à comprendre ce phénomène, mais de se dire que, oui, le mode opératoire des plantes, quand on voit ce qu'elles font avec les insectes, elles vont produire le corps d'une femelle pour les mâles bourdons, par exemple, et l'odeur, la sensation. Donc le mâle va venir passer un bon moment, donc il va avoir de la joie, mais il va emporter le pollen et les plantes vont se développer. Donc l'humain est peut-être un peu plus compliqué que le bourdon. Et donc l'humain, les plantes, elles vont rentrer dans ce monde. Elles ont une molécule qui va lui permettre de se connecter quand même à ce qui nous fait voir les réalités, de switcher, de pouvoir dialoguer avec lui. Et au final, c'est dans le monde des idées, par exemple, ce qu'on est en train de faire. Elles vont aussi, dans l'élan, transformez vos pensées. Vous allez avoir naturellement un regard vers la nature comme du vivant et du conscient. Et puis aussi, quelque part, des sortes d'ancêtres. Hein. Les plantes étaient avant nous. Donc, on a un accès, une communication. On n'a pas besoin de chercher au bout du cosmos. C'est juste autour de nous. Et donc, effectivement, ça change votre rapport à simplement déjà la relation avec la nature, avec les éléments. Si vous commencez à sentir le vivant et être capable de dialoguer, en fait. Et c'est ce que font les Indiens et les guérisseurs indigènes. Ils disent, ils vont demander aux esprits des plantes pour soigner telle personne, quelle autre plante ils doivent prendre. Et donc, on rentre dans un monde qui, pour nous, est de la fantaisie, et du rêve, et du mythologique, et du n'importe quoi, et pas crédible. Mais pourquoi? Parce qu'on a quitté ce monde-là. On vit dans le monde dans lequel on pense, et nous, on a fait d'autres alliances. Nous, notre monde a fait des alliances avec la matière. Alors on est devenus les grands chamans de la matière et les maîtres de la matière. Mais il y a un effet en retour qui s'est produit, c'est que du coup, il y a un échange d'énergie. Quand on dirige son attention sur quelque chose, on fait un échange d'énergie. C'est-à-dire qu'en dirigeant son attention sur la matière, à la fin, on finit par se penser que matière. Et ça, c'est le pacte faustien qu'on a. Et donc du coup, pour nous, occidentaux, et pour moi le premier, entrer dans ce monde-là, aujourd'hui, je dirais que j'ai du mal à comprendre que j'ai pu ne pas croire en ça, puis après je trouve ça tout à fait normal, puisque je viens d'une culture qui a fait ce pacte, et donc mon esprit était dans cet élan, cette boucle matière-matière, Et d'un autre côté, je comprends aussi qu'il a fallu pour moi et pour beaucoup d'Occidentaux le choc d'une plante très forte et visionnaire comme l'ayahuasca pour accepter de bouger. Il n'y a que la réalité de l'expérience, même si elle reste subjective, en tout cas pour vous, elle est parfaitement réelle. La réalité de l'expérience, sa force, on ne peut pas la dénier, on l'a vécue, ce n'est pas un rêve. Cette réalité d'expérience, si elle est renouvelée, qu'elle est cohérente, là, je reprendrai l'esprit scientifique. Si au bout de 18 ans, vos expériences vous donnent les mêmes résultats ou un résultat qui a une cohérence, et bien petit à petit, votre conscience intègre cette réalité dans la vôtre. Et après, c'est simplement quelque chose qui s'ajoute, on va dire. Moi, j'attends le moment où la science, un peu forcément, avance suffisamment pour rentrer en résonance avec ce monde-là.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes moins rationnel, mais plus relationnel dans la relation, finalement ?
Oui, voilà, exactement. Ouais. Okay. Mais il faut garder, oui, même avec ces plantes, il faut garder l'esprit rationnel. C'est vraiment intéressant. Oui. C'est-à-dire que le rationnel est un outil formidable, mais limitant. Par contre, si on passe sa pensée dans le monde psychomagique, au fond, hein, c'est le mot qu'on peut employer, et qu'on rentre dans une pensée magique et qu'on commence à entrer là-dedans, on peut s'y perdre aussi complètement. Oui. Hein. La frontière est avec la folie est fragile. Donc, l'esprit rationnel est un outil aussi. Et même pour les guérisseurs indigènes, il y a un esprit rationnel dans un monde irrationnel. C'est assez étonnant. D'accord. Donc, décrypter les champs, il y a quelque chose de très simple dans les champs. C'est une sorte de mantra cognitif qui leur permet de rester en présence dans l'instant et de verbaliser leur présent absolu, histoire de pouvoir tenir le cap dans la force de l'ivresse et d'avancer. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve quelque chose de très rationnel dans la pratique des guérisseurs. Une méthode, en tout cas.
Pour continuer avec les plantes, donc, je pense que c'est dit dans le livre, les plantes permettent une connexion intime et consciente avec d'autres zones du vivant. Et donc, partant de ce postulat, vous qui avez donc vu, puisque vous avez bu, vous avez pris donc des plantes, maintenant, quelque part, vous avez une forme de connaissance, donc quelque part, vous savez certaines choses. Et je parlais tout à l'heure du monde invisible, etc. Donc, si on parle en termes peut-être du mouvement collectif, vous savez qui a raison, qui est dans le juste, qui est dans le déni, le faux, par exemple. Est-ce que vous avez un meilleur discernement, voilà.
Je ne sais pas, j'ai mon discernement qui a changé. Est-ce qu'il est meilleur, je ne sais pas. Est-ce qu'il est bon, je ne sais pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que sans prendre aucune plante, on se rend compte aujourd'hui des déséquilibres profonds par le manque de regard sur le vivant comme quelque chose de simplement vivant, quoi. L'altérité, l'autre, quelqu'un avec qu'on doit respecter, avec qui on peut entamer, si ce n'est un dialogue, au moins respecter sa condition d'être vivant, eh bien on voit le monde et les déséquilibres qu'on crée dans la nature. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette espèce de vocation écologiste, moi c'est vrai que quand j'ai rencontré les plantes, j'étais pas particulièrement porté sur le sujet. Enfin, je l'étais, mais je crois que ça a vraiment accéléré le phénomène. Parce que quand vous prenez les plantes, au bout de quelques jours, quand vous sortez, que vous marchez sur l'herbe, quand vous êtes encore un petit peu dans les vapeurs des plantes, vous avez presque envie de vous excuser de marcher sur l'herbe. Ça peut arriver. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, après, vous marchez sur l'herbe naturellement une heure plus tard. Mais quand même, vous avez ce petit moment. Donc vous regardez, donc vous faites plus attention dans votre quotidien à la nature. Et puis moi aussi, par rapport à l'altérité, à la souffrance, aux nécessités. Moi, je suis devenu assez rapidement, enfin voilà, depuis 10 ans, je suis végétarien. Donc ça fait partie des choses qui changent pour moi, juste pour essayer de pas mettre ma graine dans un système que je trouve, voilà, qui n'est pas ni bon pour les autres et puis pour le collectif, pour la planète. Je fais ce que je peux là-dedans, donc ça change ces choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de prendre aucune plante tellement la situation est déséquilibrée pour se dire qu'il faut commencer à agir, qu'il faut commencer à faire attention à manger moins d'animaux, qu'il faut commencer à essayer de faire attention à la nature, à sa consommation personnelle. Il faut donner des signaux, ne pas acheter des produits qui sont hyper toxiques. Donc tout ça, franchement, on n'a pas besoin d'aller en Amazonie. Oui. Donc voilà, je dirais que pour moi, ça a été un peu plus tôt peut-être. Et puis voilà, je crois qu'on a un tel déséquilibre que finalement, les choses auxquelles on pensait il y a 10 ans sont maintenant dans la conscience collective.
Oui, c'est ça, parce que dans le livre, vous rappelez aussi que en 10 ans, finalement, les lois se sont durcies, enfin, en ce qui concerne effectivement l'ayahuasca, enfin son classement.
Oui, c'est considéré comme une drogue, et c'est quelque chose qui n'est pas autorisé,
en Occident,
qui est condamné même. En France, il faut le savoir, en plus là c'est bien de le préciser, interdit, donc ne prenez pas d'ayahuasca en France. Et au fond, la société ne comprend pas un phénomène, donc elle veut se protéger, c'est pas malveillant hein, au fond. Hein. Puis au fond, ça vous permet d'aller vraiment rencontrer les cultures qui connaissent vraiment et qui ont les pratiques et les usages. C'est toujours important d'aller dans l'endroit dans lequel...
Oui, le terreau local, oui.
Voilà, avec les bons guérisseurs traditionnels, et ça c'est forcément c'est quand même les indigènes, et d'aller aussi dans la nature avec laquelle vous allez être en contact. Et ce premier voyage extérieur est un palier qui me semble bien. Donc oui, ça a évolué, parce qu'il y a eu un peu de peur qui s'est cristallisée. Et encore une fois, par exemple, en Occident, on a du mal à comprendre que dans les plantes traditionnelles indigènes et surtout psychoactives, c'est pas une posologie du type médical, c'est-à-dire on va vous donner tant de grammes de telle molécule qui est issue des plantes pour vous soigner. Ça marche pas du tout comme ça. C'est indissociable du thérapeute et du contexte. Et nous, on peut pas regarder ça comme ça parce que c'est à l'époque des druides, mais dans notre culture, c'est pas possible. Et comme effectivement, si l'ayahuasca est pris dans une dose un peu forte et en solitaire, il peut y avoir des accidents psychologiques, hein, parce que vous allez rentrer dans un monde de vision et vous pouvez avoir peur et puis d'un coup cristalliser des peurs et tout. C'est vrai que je dirais, c'est logique de ne pas le recommander, de l'interdire. Ça a son sens dans ce contexte, ça n'a pas de sens au fond parce que c'est une médecine et puis c'est moins dangereux que... On a moins de chances de faire une surdose d'ayahuasca que d'aspirine, ou d'en mourir, mais voilà, il faut faire attention et ça a été la réponse un petit peu qui a été donnée. Donc ça a évolué. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en Amazonie, oui. Il y a eu beaucoup... C'est quelque chose qui s'est beaucoup ouvert au cours de ces dernières années.
Et alors, par contre, la contrepartie positive, comme vous le rappelez, c'est que finalement, il y a l'émergence de cette conscience un peu collective en rapport avec la défense, la sauvegarde de la planète, les rapports raisonnés aussi avec les plantes, les animaux, qui pour vous, d'ailleurs, vous le rappelez, sont des personnes. C'est ce que vous évoquiez
avant. Voilà, ce sont des êtres sensibles.
Oui.
Donc, doués de conscience, parfois, certains. Alors, les Indiens disent, hein, là, que pour certaines plantes, certains animaux, leur esprit, leur conscience est collective. Et puis d'autres, elles sont individualisées. Ça dépend des espèces. Et c'est bon, c'était tout un bazar. Mais en tout cas, ce que ça induit, c'est que votre relation à eux doit être teintée de respect de leurs émotions, de leurs qualités. Alors, bien sûr, les plantes, c'est particulier. On va pas après parler. On va se moquer du végétarien qui ne fait pas attention au prix de la tomate, mais c'est encore autre chose. Les plantes, mais en tout cas le respect sur le monde qui est invisible des plantes et de leurs esprits et de, voilà, doit exister. En tout cas, il existe chez ceux qui ont pris suffisamment d'ayahuasca et qui ont avancé un petit peu dans la connaissance de ces mondes. Et puis, je dirais, voilà, les déséquilibres sont tellement forts que je crois que plein de gens, naturellement, se disent qu'il va falloir avoir une autre relation à tout ça, quoi.
Je crois que votre rapport à Dieu a évolué aussi, parce que, bon, je sais que vous avez une grande vie spirituelle, enfin, vous vous intéressez à beaucoup de choses dans ce domaine. Vous me disiez, dans notre dernier entretien, que vous n'étiez pas religieux, mais intéressé plus par, voilà, le message, si on parle des textes sacrés, des prophètes, ce genre de choses. Et donc, en faisant des sessions comme ça, je pense que votre rapport à Dieu a évolué, a changé, peut-être. Vous dites que la foi est l'arche de la force des guérisseurs et que l'amour est plus fort.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais plutôt de la croyance de l'athéisme, puis après de gnostique plutôt, et puis petit à petit, c'est forgé par l'expérience de l'ayahuasca, la sensation dans des états très très fragiles où vous pensez que vous allez mourir, que vous voyez de l'obscurité, de la foi en fait, c'est-à-dire de ce qui bat dans votre cœur, de positif, d'harmonieux, qui va vers l'autre. Voilà, votre compassion, votre empathie, et puis cette force de croire au bon, au bien, plus que à la destruction et à la souffrance. Une sorte de vibration, d'une joie profonde, d'unité avec tout.
Que vous aviez d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, mais très bien montré d'ailleurs dans Blueberry, si je peux me permettre.
Oui, absolument. Oui, et l'ayahuasca, en fait, peu à peu, on se dit, il y a des diètes comme ça qui vous relient à la lumière qui est à l'intérieur des mondes des plantes, parce que les mondes des plantes ont plusieurs dimensions. Vous allez entrer dans une diète d'une plante et le guérisseur va vous guider pour aller vers ce qu'il appelle la lumière et la médecine de la plante. Et donc, ce sont effectivement, peu à peu, ces connexions qui, globalement, réveillent la flamme à l'intérieur de votre cœur ou de votre esprit. En ce que moi j'appellerais la foi. Et après, Dieu, vous pouvez l'appeler l'amour. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais la foi que cette force est plus forte que l'autre. Voilà. Et ça, je crois que c'est ce qui nous fait... et c'est ce que j'ai compris au cours des années. Enfin, et depuis... quand on gigote absolument dans les visions la seule chose qui peut vous tenir droit dans ce monde-là, et parce que parfois vous avez vraiment un grand vertige, c'est la foi. La foi, c'est la confiance en l'amour plus forte qu'autre chose, la confiance en la médecine et les énergies positives et lumineuses des plantes, en la vôtre, en celle des hommes, en celle de l'univers. Et quelque part, après, vous pouvez mettre le nom que vous voulez là-dessus. Mais effectivement, dans notre, on appelle ça, oui, voilà, c'est la force d'amour de l'unité. Vous vous reliez à cette foi et la foi en ce qu'on appelle Dieu, au fond, c'est-à-dire l'amour inconditionnel et ouais. Le fait que avec cette force que vous allez traverser et vous soigner. Mais alors, et être mieux et être plus relié après à ce type d'énergie. Ce but est d'être joyeux, en paix et relié au monde. Voilà ce que vous apporte l'ayahuasca et la médecine traditionnelle indigène.
Et quand, à un moment, vous évoquez les Icaros et vous dites que le guérisseur, finalement, quand il chante, il opère en quelque sorte en trois temps. Il y a dans un premier temps une ouverture et une connexion spirituelle. Ensuite, il fait une sorte de nettoyage si jamais, bon, voilà, vous êtes dans une soit mauvaise énergie, soit quelque chose à traiter. Enfin, et finalement, il opère une harmonisation. Hein, c'est ce que vous dites. Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que, du point de vue du guérisseur, donc on s'aperçoit que finalement, c'est des êtres de profondément croyants, peut-être, hein, enfin, qui ont cette foi, justement, cet amour avec un grand A, on peut dire. Mais qu'est-ce que, peut-être, de leur point de vue, qu'est-ce qu'être sain de corps et d'esprit, finalement ? Enfin, vous avez déjà évoqué un petit peu, mais...
Oui, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Hein. Oui. Le guérisseur, il va se relier à la lumière, au monde des médecines, des plantes. Et voilà, il va chanter son état, en fait. Mm-hmm. Il va chanter sa confiance en la médecine. Il va chanter sa reliance en la médecine. Il va chanter son harmonisation personnelle du corps, de l'esprit, qu'il va demander aux plantes de faire. Et puis, il va ouvrir son champ pour aller vers l'autre et effectivement le soigner. Donc le soigner, ça passe par... En fait, deux phases, c'est nettoyer ses énergies, mais on va dire ses émotions négatives, ses souffrances, ses concepts mentaux qui le font tourner en boucle dans un truc peut-être un peu dépressif, ses peurs, les empreintes de ses peurs, et tout ça dans le monde des visions, il va les nettoyer, et après, il va travailler à relier le patient à des énergies, à ouvrir son cœur, on va dire. Il va travailler, parce qu'on a tous une force paisible, et c'est simplement... Les chaos de la vie, les souffrances que l'on crée aussi simplement psychiques par rapport à des événements ou qui vont petit à petit verrouiller certains mécanismes de pensée ou certains doutes ou un manque de confiance. Et voilà, il suffit de doter ces verrous, c'est le travail vraiment du guérisseur, de manière à ce que puisse, voilà, la fleur puisse s'ouvrir et puisse être juste bien et tranquille. Et... Vous savez, moi, je pense que le guérisseur, à un moment donné, se dit, mais en fait, un être humain, pour être heureux, il lui faut de quoi manger, un toit, et de l'amour avec les autres. Voilà. Et s'il a ça, alors il n'y a rien de plus qui est nécessaire. Oui. Quoi. Voilà. Donc, si c'est pour répondre à votre question, je dirais, voilà, être en bonne santé, pouvoir manger. Bon, alors, eux, je dirais être bien, bien relié à la nature. Et puis, avoir de l'amour, c'est être bien et de la joie. Et il n'y a pas d'autre objectif. Si vous voulez, tous les objectifs que nous, on a tendance à se créer et les pressions qu'on se met pour aller plus haut, pour être accepté par les autres, pour être connu, pour aboutir nos projets, c'est quelque chose qui est positif. Hein. Je crois qu'il faut... jusqu'au moment où ça ne nous met pas une pression intérieure qui nous déséquilibre. Je crois qu'il faut surveiller, moi c'est un peu ce que m'a appris la médecine, c'est quel que soit les projets, le cinéma, les films, il faut toujours vérifier entre vous maintien dans un flow où vous êtes bien. Quoi. Vous avez envie de le faire, envie d'y aller. Il y a parfois des projets, moi, que je ne fais pas pour amener, on va dire, potentiellement, hein, mais gloire et succès, mais d'un coup, on se dit, oui, mais je pourquoi ? Qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que je cherche ? Au fond, je cherche à faire des choses intéressantes de manière créative dans toutes les directions et être heureux en les faisant. Voilà, après,
Alors, justement, pour finir et parler de vos projets, parce qu'il y a 10 ans, vous évoquiez peut-être une adaptation de Qumran, mais je ne pense pas qu'elle ait eu lieu. Et également, vous parliez enfin une commande qui avait été faite plus ou moins par les Shipibo sur leurs mythes fondamentaux. Vous nous direz un peu peut-être vos projets futurs. Je pense que vous écrivez un roman, et puis là, vous évoquiez un film tout à l'heure aussi, en rapport avec le monde indigène, peut-être?
Alors, c'est vrai que, alors, non, oui, c'est vrai que il y a
Oui.
longtemps, il y a 10 ans. Effectivement, j'ai travaillé sur l'adaptation du roman d'Eliot avec Asif, Qumran, et c'est un très beau projet qui, moi, m'a nourri parce qu'il est très puissant et je trouvais le roman remarquable. C'est un plaisir de travailler avec Eliot. Mais le projet n'a pas abouti, il n'est pas passé en production. J'ai aussi travaillé sur une adaptation des contes et des mythes, mais ça non plus, c'est pas encore passé en production.
OK.
Ça, je ne désespère pas. Et puis, entre-temps, j'ai fait d'autres films. J'ai fait Chanel et Stravinsky. Après, j'ai
Oui.
fait une série Le vol des cigognes. Après,
Oui.
j'ai fait The Show pour Black Pills, là, l'année dernière. Et surtout, ce que je fais aujourd'hui, c'est de la réalité virtuelle. Alors, intéressant, c'est qu'on m'a proposé un film de réalité virtuelle. Vous savez, vous mettez le casque sur la tête et vous êtes
Oui.
dans un espace dans lequel vous déplacez à 360 degrés, interactif potentiellement. Et quand j'ai vu le développement de cette technologie, j'ai tout de suite pensé que c'était la meilleure technologie pour reproduire
Oui.
le vécu d'une cérémonie d'ayahuasca et de la médecine traditionnelle. Et là, je suis en pleine production, là, aujourd'hui. Depuis quelques mois, on est entré en production d'un film, donc en VR, qui s'appelle Cosmovision, qui est vraiment de vous faire vivre une cérémonie avec beaucoup plus de curseurs interactifs, du 360, du relief. Des guérisseurs sont venus, on a enregistré les chants en fonction des images, on remodèle l'expérience. Donc, j'ai lancé ce projet il y a 2 ans et c'est quelque chose que je suis en train de faire. Donc, je suis très content parce que c'est le nouveau film que je fais relié à la médecine traditionnelle et comme elle prend quand même une place importante et que j'ai quand même déjà pas mal, j'ai fait plusieurs films sur le sujet. Mais là, voilà, je pense que c'est quelque chose que je voulais faire, que je rêvais de faire à l'époque où on a fait l'interview. Inconsciemment, je me suis dit, j'aimerais bien faire un film. J'en ai peut-être pas osé en parler à l'époque, mais qui s'appelait Cosmovision et qui
Oui.
soit quelque part. Mais moi, je voulais faire un long métrage, un peu type Baraka ou Kenyskatsi, c'est-à-dire dépeindre la réalité qu'en vision pendant 1 heure et demie, et pas qu'en vision d'ayahuasca, hein. Il peut y avoir aussi des visions de notre monde mécanique, de nos mondes de pensée, de notre culture musicale, d'autres pays, donc quelque chose, mais qui soit que des images créées comme un ballet d'archétypes. Et voilà, donc j'avais envie de ça. Hein. Ça, je ne l'ai jamais fait parce qu'il faudrait qu'il y ait un mécène qui vienne et qui me mette, dit, je veux que ce film existe, donc chaque fois que... voilà, peut-être un jour je le ferai. Et donc, du coup, on fait ce film.
Qui
On fait
sera
ce film
visible au cinéma?
Cosmovision. Et il ne sera pas visible au
Ah,
cinéma, mais il
d'accord.
sera visible dans les salles de réalité virtuelle. Et pour ceux
D'accord.
qui ont un casque de réalité virtuelle, ils pourront le télécharger sur les différents
OK.
stores pour tous les modèles de lunettes en six-dof. C'est-à-dire, vous pourrez vous déplacer dans toutes les directions. C'est-à-dire, vous pouvez vous marcher dans la maloca, vous asseoir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez dans la jungle et dans le monde des visions. De la même manière, vous pourrez vous déplacer. Alors, bien sûr, vous serez assis, hein, parce que dans le monde des visions... Quand on prend de l'ayahuasca, on se lève pas et on danse pas. Mais voilà, je crois qu'en 1999, c'était en août, quand j'ai pris la première fois d'ayahuasca, mes visions étaient tellement fortes que je me suis dit un jour, faudrait que je... Mon Dieu, c'est mon rôle d'artiste, vous
Faire
savez,
partager,
d'être
ouais.
foudroyé par dire je dois communiquer. Donc j'ai fait des dessins, puis après j'ai réussi à faire des films, puis je fais des livres puisqu'on en parle, pour communiquer autour de ça. Et je crois que là, je passe une étape nouvelle, c'est-à-dire de me rapprocher encore plus du vécu de l'expérience. Et j'étais heureux déjà de montrer des images non définitives aux guérisseurs qui étaient aussi assez étonnés du fait que ça se rapproche quand même bien de ça. Et je pense aussi que c'est le bon moment, puisque moi, j'ai quand même passé beaucoup plus de temps aujourd'hui dans les mondes de la médecine pour pouvoir un peu mieux la comprendre et du coup fabriquer des images qui sont plus justes. Voilà.
Et l'écriture d'un livre aussi, d'un roman, peut-être?
Ah, ça, j'ai commencé un roman sur la jungle, oui, mais j'ai
D'accord.
commencé à 5 ans, mais ça, c'est vraiment, comment dire, c'est ma danseuse, hein. Il faudrait que j'aie 4 ou 5 mois sans projet. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai plutôt des projets de long, et comme en ce moment, c'est compliqué de faire des longs métrages un peu créatifs dans le monde d'aujourd'hui du long métrage. Donc, moi, je fais 3 films en réalité virtuelle avec l'artiste Molécule, qui s'appelle -227 en Arctique. Qui est en cours de production. Je fais aussi Seven Lives, un film qui se passe au Japon en réalité virtuelle. Donc, je suis en cours de montage. Donc
D'accord.
là, je suis vraiment très occupé par la
Oui.
réalité virtuelle. J'espère faire un film de cinéma bientôt. Je développe des projets. Et je pense que quand j'aurai fait un film et que j'aurai un peu de temps devant moi, en fait, je reprendrai mon roman parce que j'ai trouvé que sous forme... Je peux pas arriver sous forme de film, c'est très compliqué à financer aujourd'hui ce type de choses. J'ai eu la chance incroyable d'avoir un très gros budget pour faire Blueberry qui parlait des métiers traditionnels. Mmh. Puis j'ai fait aussi un doc, et puis un court-métrage, et puis d'autres choses. Là, je pense que le roman me permet d'aller plus profond dans le sujet, d'essayer de faire vivre une partie de l'histoire depuis le point de vue du guérisseur. Parce que quand on les connaît depuis 20 ans, on voit un peu mieux leur pensée. Et je pense que si je l'ai pas encore fait, c'est parce qu'il faut que je retourne faire... Et c'est mon projet aussi pour faire une diète un peu plus longue de plantes, histoire de continuer à avancer, à comprendre mieux. Et quand ce sera le bon moment, ça reviendra dans le roman. Voilà, donc je me laisse guider. En fait, ce qui n'est pas agréable, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un long métrage de cinéma. Et pour moi, c'est le cœur de mon métier, c'est ce que j'aime faire. Mais j'ai pu faire une série créative avec The Show, je fais mes films en réalité virtuelle, j'ai fait... Veille-Poivre, un documentaire sur la cigarette électronique, et cette journée, un documentaire sur la naissance et les balèles. Donc, j'ai habité ma vie depuis 5 ou 7 ans, de plus petits films, on va dire, mais quelque part, c'est très libre, très créatif, c'est joyeux, j'ai moins de contraintes que sur un long métrage. Donc, par rapport à ce que je vous disais aussi, avant, et que le but, il n'est pas.
Vous êtes heureux.
Le but est avant tout d'être joyeux, de faire des choses dont on est fier. Ben, je continue d'avancer là-dedans, donc tout va bien jusque-là.
Bah, très bien. Bien. Super.
Et j'essaie de rester relié pour que ça continue.
Bon, merci beaucoup, Yann Kounet, et puis bon vent à vous, et puis on suit votre travail. Merci.
À la prochaine.
Merci. Au revoir.
Au revoir.